Florian Lecture.
Bouillon de lecture, un bouillon d'été où on a choisi de vous lire un livre un peu plus en détail, par épisode. Nous avons choisi l'héritage de Cavanna, oui, le Cavanna de Harakiri et de Charlie Hebdo. François Cavanna est né en 1923 d'un père italien et d'une mère française. Il a vécu à Nogent-sur-Marne dans ce qu'il appelle lui-même une rue aritale. Et donc dans son livre, il raconte son enfance, la France des années 30, dans sa banlieue parisienne, avec un langage assez cru, assez imagé, qui se veut le langage de l'enfant qu'il était. Aujourd'hui, Catherine vous parle du racisme anti-rital qui pouvait exister à l'époque, et Magali du quotidien de l'auteur.
Vercingétorix. Les ritales, on est mal piffé. C'est parce qu'il y en a tellement par ici. Les mômes français ne risquent pas le bout de leur pompe dans nos rues à ritales, mais à l'école, là, ils se rattrapent, se sentent costauds, les petites vipères. On voit bien que leurs parents ne se privent pas de débloquer sur nous autres à la maison. Tiens, rien que le genre de vacherie que ces merdeux nous balancent, ça pue la connerie de leurs vieux. Les ritales, vous êtes bons qu'à jouer de la mandoline. De la mandoline, j'en ai seulement jamais vu. L'idée de mon père jouant de la mandoline. Dans votre pays de paumé, on crève de faim, alors vous êtes bien content de venir bouffer le pain des Français. Bah, pardi, c'est normal, non? S'ils se laissaient mourir sur leur tas de cailloux, les ritales, on les traiterait de feignants. Ils vont là où il y a à bouffer, là où un gars avec deux bras et du cœur au ventre a une chance de dégoter un crouton au bout d'une journée de sueur. Les Français sont bien contents de le vendre, leur sacré fameux pain français, à ces gros ploucs si travailleurs, si bien élevés, si humbles, qui se coltinent les brouettés de béton à leur place. Eux, les prolos français, leur rêve, c'est de devenir fonctionnaires. D'entrer à la poste, comme télégraphiste à vélo, ou à la cartoucherie de Vincennes, qu'il pleuve ou qu'il vente, t'es à l'abri. Et à la fin du mois, la paye tombe. Des métiers de gonzesses. La preuve, leur même mère y bosse aussi. Elles font les mêmes boulots qu'eux, juste les mêmes. Elles se mettent du rouge à lèvres et elles ont des indéfrisables. Des vrais poufias d'usine. Faut voir ce qui se passe derrière les tas de caisses d'obus. Hein. Si tu veux pas être mal vu par le contremaître, faut que tu les écartes. Et le mari ferme sa gueule, trop content, tu parles. Sa bonne femme va se faire des heures supplées. Ils pourront s'acheter le tandem pour partir à la mer. Ils nous disent encore, les petits haineux, « D'abord, les ritales, vous n'êtes pas des soldats. Si les Français n'étaient pas là pour vous donner un coup de main, vous vous faites déculoter par les boches à tous les coups. » Ça, oui, ça me mouche, ça. Les petits ritales ont beau raconter que l'armée italienne s'est toujours battue à 1 contre 100. Ben, un rital sans boches, hein, naturellement. C'est vrai que l'Italie n'a pas gagné beaucoup de guerres. Alors là, je me sens français à bloc, comme maman. Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Guinemer et tout. Guinemer, c'est son héros à maman. Elle en pleure encore quand elle repense à tout ce qu'elle a pleuré le jour où elle a vu dans le journal qu'il était mort, tombé en plein ciel de gloire. Même que le boche qu'il avait descendu, lâchement par derrière, autrement c'est pas possible, était venu avec son avion à l'enterrement et avait laissé tomber une couronne, une belle qui avait dû coûter cher, juste au-dessus de la tombe. Et la couronne avait encerclé la croix. Oh. Faut drôlement savoir viser, surtout qu'en avion, ça va vite. Hein. Ils sont pas mal non plus comme aviateurs, les boches. Le journal, il est dans une boîte, c'est le matin, tout jaune, tout cassé au pli. Et dans la boîte, il y a aussi les photos des frères de maman, mon oncle Louis et mon oncle Baptiste, habillés en soldats de la guerre. Ah, et aussi la photo du mariage de maman, avec toute la famille française. Ils ont l'air vachement pas commodes tous. On voit qu'ils n'étaient pas trop fiers qu'elle se marie un rital, qui savait ni lire ni écrire, même pas parler français, et qui chiquait, et qui leur crachait tout noir au ras des pinceaux. Je dois dire que moi non plus, je comprends pas bien ce qu'il lui a appris à maman. Surtout qu'elle était belle, hein, dans le genre chat sauvage. Va savoir. Comme étranger, par ici, il n'y a que les ritals. Papa m'a dit que dans le nord, c'est plein de polacs. Des grosses brutes, des vraies bêtes sauvages. Ils arrachent les betteraves, c'est tout ce qu'on peut leur demander. Et encore, si t'es pas tout le temps derrière leur cul, ils les cassent avec leurs grosses pattes de polac. Ils salopent tout. Ou alors, ils vont dans les mines piocher le charbon. Mais le bâtiment, il pourrait pas, c'est trop fin, trop délicat. Faut avoir l'œil juste, faut penser avec la tête. Il y a bien aussi les Russes, mais les Russes, c'est pas des étrangers. Ils font des métiers de Français. Les Français ne les méprisent pas, ne se foutent pas de leur gueule à l'école. C'est eux qui méprisent les Français. Il paraît que c'est tous des princes et des marquises et qu'ils se sont sauvés à cause des bolcheviks qui tuaient tous les aristocrates. Les Français ne les aiment pas beaucoup. Les Français, ils n'aiment personne. Mais on sent qu'ils ont de la considération parce que c'est pas des vrais pauvres, mais des gens riches qui ont vécu des choses très tristes, comme dans les feuilletons. Je connais bien Litvinov et les frères Lichkin. C'est des copains d'école. Je suis même allée chez eux. C'est plein de tapis partout. Mais même au mur, hein. Et plein de photos, de vases, de bougies allumées en plein jour, de drôles de Sainte Vierge, des icônes, ça s'appelle. Ils sont marrants, ces gens-là. Ils foutent l'argent en l'air pour des conneries. Et pourtant, ils sont aussi pauvres que nous. Mais je sais pas comment ils se démerdent. Même tout dégueulasse, plein de trous, ils ont pas l'air petit monde comme nous autres, qu'on est pourtant toujours bien propre et bien reprisé. Maman dit que c'est des bohèmes. Français, Rital, les Russes s'en foutent. Pour eux, tout ça, c'est le même croquant. Eux, ce qu'ils peuvent pas piffer, c'est les Juifs. Avant de connaître les mots Mruskov, je savais même pas ce que c'était qu'un juif. Je devais avoir 6 ans, j'étais dans la classe de M. Cluzot. À côté de moi, à la même table, il y avait un russe. Il s'appelait Chenderovitch. À la table devant, il y avait 2 Russes. À la table derrière, 2 autres. C'est là que j'ai vu que Chenderovitch n'était pas un russe comme les autres. Ces sales cons étaient méchants avec lui, on n'a pas idée. D'abord, je comprenais pas. Il n'était pas bossu, ni boiteux, ni bigleux, ni bégayeux. Enfin, rien de ces trucs qui font qu'on ne peut pas s'empêcher de faire chier un mec du matin au soir. Il lui disait tout le temps « sale juif, fumier de youpin pourri ». Il lui balançait des vacheries en russe qui le faisaient chialer et le foutaient dans des crises de rage épouvantables. Alors, il cassait tout, leur tapait dessus, criait comme un fou, mais eux évitaient les nions, ricanaient et se tapotaient la tempe avec le doigt. Il me disait « Il est dingue, tous les juifs sont dingues ». Le père Cluzot faisait venir Chenderovitch au tableau et lui cinglait les mollets avec sa règle. C'était son vice à ce con, cingler les mollets. Et Chenderovitch gueulait « C'est pas juste, c'est les autres salauds ». Mais Cluzot allait pas chercher plus loin. Il tapait jusqu'à ce que les mollets soient tout noirs. Et après, il mettait Chenderovitch au piqué. À moi aussi, il me l'a fait, hein, le coup des mollets. Et maman m'a demandé « Où que t'as eu ça ?» Et moi, j'osais pas lui dire parce que j'avais bavardé en classe. Et à la fin, je lui ai dit. Elle a foncé chez le Dirlo, le père Garnier, et Cluzot a dû se faire salement engueuler. En tout cas, il a plus recommencé. L'année d'après, il s'est suicidé, ce con-là, en se couchant sur la voie devant un train. Preuve que ça tournait pas rond, hein. Enfin bon, comme étranger mal piffé, il n'y a que nous, les Rital. C'est nous qu'on éponge tout. La crise, c'est de notre faute. Le chômage, c'est nous. Mussolini qui fait le con, c'est pour nos pieds. Je vous l'ai dit, pour les Rital, je suis un bâtard, puisqu'à moitié français. Mais pour les Français, pas de problème. Ils me traitent de macaroni et me chantent « As-tu vu Négus à la porte d'Italie qui secouait les puces à Mussolini ?» Négus ? Négus, c'est le roi d'un pays de négros là-bas en Afrique. Les Italiens lui sont rentrés dans le chou avec leurs avions et leurs tanks. Et naturellement, ils sont encore en train de prendre la tripotée, ces cons-là. Se faire casser la gueule par des négros tout nus, qui ont rien que des lances et des arcs à flèches. Merde. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans Paris Soir. Depuis que cette espèce de guerre est commencée, on nous fait vraiment chier. Surtout les mômes. Chez la boulangère de la Grand-Rue, quand mon tour arrive, cette grosse vache fait exprès de servir tous les gens qui sont derrière moi, rien que pour pouvoir me dire que du gros pain au kilo, il n'y en a plus. Il n'y a que du fantaisie ou de la viennoise, et ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à retourner chez eux, voir si le pain est meilleur. Même les profs à l'école, hein, ils peuvent pas s'empêcher de nous faire sentir qu'on est des cubénis, de la graine de fascistes. Eux, laïcs, républicains, et Jules Ferry comme des fous. Ces andouilles-là ne se rendent même pas compte du boulot qu'ils ont fait sur moi. Cubénis, je l'ai été. Ah ouais, et de tout mon cœur. Pas jusqu'au mysticisme, j'ai pas le tempérament. Mais de tout mon besoin que les choses tiennent bien ensemble et qu'il y ait là-haut un grand-père avec une tête très intelligente, responsable de tout. L'abbé n'aimait guère cette foi trop ardente et trop raisonneuse. Je m'en rends bien compte maintenant. J'avais beau être le premier à l'examen du catéchisme et marcher en tête du cortège de la première communion avec mon cierge et mon brassard, il préférait les petits ritales pur jus, bien gnangnans, bien lèche-cul qui se contentaient d'avoir peur de Dieu et ne cherchaient pas à faire sa connaissance. L'abbé avait du flair. La foi m'a quitté comme une dent de lait. Non, elle m'a pas quitté. Je l'ai viré. Foutu dehors à coups de pompe dans le cul. Et c'est bien à vous que je le dois, vous, mes instits de la communale, pourtant pas spécialement bouffeurs de curés. À vous surtout, mes profs de l'école supé, à nos gens, ce qu'ailleurs on appelle cours complémentaires, c'est-à-dire après le certif et jusqu'au brevet, et un truc spécial, expérimental peut-être bien, une superbe école primaire supérieure toute neuve, en briques rouges, qui domine la vallée de la Marne et où l'on a droit à des professeurs agrégés, comme au lycée, dis donc. Amphithéâtre de physique-chimie, laboratoire pour travaux pratiques, terrasse panoramique pour peindre des paysages, un machin terrible. Je peux dire que j'ai du pot. À vous, portalier, brut, superbe, gueule énorme, sûrement plus qu'à demi-dingue, à vous, Bernadac, Bonnet dit Nabucodonosor, dit Nabu, Le Greneur, tous les autres. Vous ne soupçonnez pas, vous ne saurez jamais quel formidable boulot souterrain vous faites. Pour vous, je suis l'emmerdeur, dissipé peut mieux faire. Le sale petit con ricanant qui gâche ses dons et empêche les bosseurs de bosser. Vous m'avez décollé les yeux et décrassé le dedans de la tête. Vous m'avez donné le goût, le besoin, la faim dévorante des choses claires, clairement conçues et clairement énoncées. Vous m'avez montré l'architecture du monde et fait entrevoir l'architecture du savoir. Vous m'avez fait goûter au haut plaisir d'apprendre, à celui mille fois plus éblouissant de comprendre, d'entendre cliqueter allègrement mes petits palpeurs intimes et de voir s'allumer toutes les lampes quand la solution soudain, plof, jaillit, que tout s'en mange, ric-rac. Vous m'avez donné la curiosité, le doute et l'insatisfaction. Vous m'avez écarté des voies sombres et tentatrices, ou plutôt, vous m'avez appris à en goûter les séductions troubles sans m'y brûler les pattes. Vous m'avez bien fait chier avec Corneille et Racine, et l'autre poseur, là, Chateaubriand, mais vous m'avez fait pleurer de bonheur à Molière, à La Fontaine, à Rabelais. Ouais, vous avez fait tout ça. Vous m'avez mis au monde, tout beau, tout neuf, et vous n'avez rien senti. J'avais 4 ans, 5 à tout casser, quand m'a empoigné le vice qui ne m'a plus jamais lâché, qui ne fait que croître et embellir, qui me possédera tripes et boyaux tout au long de ma vie. Ça, j'en suis bien sûre. Ce vice, c'est l'imprimé. Les enfants de Pouilleux, on est avantagés au départ. À peine pondus, nous voilà à la crèche, puis à la maternelle. Rodés de bonne heure à l'école, pas de cassure. Ma crèche était celle des bonnes sœurs, rue Cabi. Mon école maternelle, celle du boulevard Gallieni, la grande belle pleine de jolies peintures de fleurs et de gentilles bêtes sur les murs. À 4 ans, tu commences tes lettres. B, A, BA. Lulu a bu le lolo de Mimi. À 5 ans, dictée du samedi matin. Si tu fais zéro faute, t'as la croix. D'honneur. Dorée avec de l'émail bleu dedans. De mérite, alors sans émail. Ou croix d'horreur et croix de marmite, disent ceux qui ne l'ont jamais. Chaque samedi midi, maman m'attendait sur le trottoir. Du fond du vestibule, je courais à elle. « Maman, j'ai zéro faute !» Elle, pas crâneuse, « Tiens !» Les voisines de la rue, Jalmince. « Ma, qu'est-ce qu'il est intelligent, votre François !»« Madame Louvet !» Une femme mariée porte plutôt le prénom de son mari que son nom de famille, surtout quand il risque d'y avoir confusion avec une dame plus considérable. Dire « Madame Cavana » serait presque blasphématoire à l'égard des Cavana plus huppés. Le manant n'a rien à gagner à porter le nom du Seigneur, des signores. Maman, c'est Madame Louis, ou même Madame Gros Louis. Les commerçants où je vais faire les commissions l'appellent Madame François. Ils apprennent bien votre François, Madame Louis. Il a la tête qu'il apprend tout ce qu'il veut. Ça sera fatigant, non, d'avoir la tête qu'elle travaille tout le temps comme ça, non? Ça sera peut-être pas bon pour la croissance, non? Il est un petit peu palo, votre François. Vous avez trouvé, Madame Louis? Il serait pas malade, non? C'est là que j'ai commencé à me prendre pour un petit génie. Le bon air. Petit, je l'ai pas été longtemps. De taille, je veux dire. Je montais en tige comme une asperge. À 7 ans, j'étais presque aussi haut que papa et maman, qui sont plutôt rase-motte. L'un comme l'autre, c'est vrai.
Ma, qu'est-ce qu'il est grand, votre François, Madame Louvie, et que bientôt il va vous manger la minestra sur la tête. Et de rire, moi, ça me faisait dans la bouche un goût de cheveux collés de soupe. Maman, toute crâneuse au fond, prenait un air soucieux, disait que la croissance me fatiguait, me donnait des glandes. Elle me tâtait sous la mâchoire. « Oh là là, tes ganglions qui te travaillent, toi, t'es encore en train de me faire de la croissance !» Elle me bourrait de beefsteak de cheval, de viande hachée crue qui donne du bon sang rouge. Me faisait boire de la quintonine avant les repas. Avec toute cette réclame qu'ils font dans le journal, ça peut être que du bon. Elle en prenait aussi un doigt pour goûter. « Ça fortifie !» qu'elle disait. « Je sens que ça me fait de l'effet. Ça me tombe jusque dans les jambes. Tu parles !» Tu vidais la petite bouteille brune dans un litre de rouge 11 degrés, ça le faisait grimper à des 22. J'avalais mon demi-verre à jeun, ça m'explosait dans la tête, ça me fauchait les pattes, je sentais la force et la santé se faufiler dans tout mon corps. J'étais gentiment bourré, quoi, mais ça, je le savais pas. Quand je rentrais de l'école à 4 heures, maman était au boulot, je me tapais en douce, une bonne goulée à la bouteille. Ça avait un goût de quinquina et d'orange amère, bien sucré, fameux, tiens. Pour me tranquilliser la conscience, je me disais que je me faisais du bien, que ça me donnerait des bonnes joues rouges et des gros mollets durs, comme aux autres. J'en avais marre de ma gueule verte, de mes yeux cernés et de mes quilles en fil de fer, merde. J'en avais marre d'avoir honte de moi. Et hop, une goulée de plus pour gonfler l'autre mollet qu'a pris du retard. C'est comme ça qu'on fabrique les futurs bons petits couleurs d'apéro au pif bleu marine. Le dimanche, quand elle arrivait à le harponner, maman disait à papa « Prends donc le petit et emmène-le respirer le bon air. Et fais le marcher surtout. La marche à pied, c'est ça qui développe les poumons. » Papa grognait, bougonnait, vexé de s'être fait coincer avant d'avoir pu se faufiler. Mais déjà, maman m'avait boutonné mon manteau, mis un mouchoir propre dans la poche avec de l'eau de Cologne dessus. Et moi, bien entortillée dans mon cache-nez, je tendais la main. Papa la prenait dans la sienne, se calait dans la joue une chic mouse, une chic de consolation. On descendait l'escalier, et bon quoi, nous voilà partis. Maman, elle, restait à la maison pour faire sa lessive. Le dimanche, c'est le jour de sa lessive à elle. À peine levée, elle met la lessiveuse à bouillir sur la cuisinière bien bourrée d'anthracite, ça boue toute la matinée pendant qu'elle fait son ménage et qu'elle prépare des bons plats du dimanche pour le déjeuner. Une lessive de femme de maçon, c'est quelque chose. Ça salit le bâtiment, on croirait pas. Et quand papa est appelé la nuit pour déboucher une fosse à merde qui déborde, avec un coup de rhum dans le ventre contre l'envie de dégueuler et une bougie à la main que si elle s'éteint, ça veut dire qu'il y a le gaz de la mort dans la fosse, tire vite sur la corde pour que le copain là-haut t'aide à remonter à fond de train, sans quoi tu plonges dedans, la tête la première. On te ramène à la maison, mort et dégueulasse, plein de merde, t'en fous partout. Oui, ben, quand papa revient de ce genre de boulot, maman fait bouillir une lessive à part, rien que pour ses affaires à lui. Je veux pas mélanger la merde des autres avec la mienne, non, mais des fois. J'ai plus de fierté que ça, moi. Maman dit la marde, comme on dit à Forges, commune de Sauvigny-les-Bois. D'abord, ce genre de travail-là, je t'ai déjà dit 1000 fois que je veux pas que tu l'acceptes. Un de ces jours, tu vas y rester. Et qui c'est qui nourrira le petit quand je serai veuve? Toi, tu t'en fous pas mal. T'es comme l'oiseau sur la branche. Pour tes cavanas, tu te ferais couper en morceaux. Et toute la saloperie à laver, c'est pour mon dimanche que j'en ai l'estomac retourné. Et le pourboire qu'on te donne, j'en vois seulement pas la couleur. Une fleur, tu me l'as jamais offerte. Jamais. Même pas un bouquet de violettes. Tiens, je voudrais que l'argent se change en merde dans ta poche. Papa, sidéré par tant de perfidie, toute dignité brandie, œil bleu faïence froncé, farouche. « Ma que violette, gvardemez-moi ça, ma que roucouneuse !» Et il se tire vers quelque part où on ne l'engueule pas du matin au soir. Alors maman, à travers la porte, à toute volée, « C'est ça, sauve-toi, la vérité te fait peur, lâche, t'es bien comme tous ceux de ta race. » La banlieue, l'hiver, c'est triste. Une drôle de tristesse que je ne sais pas si elle me rend triste ou si elle me fait plaisir. Les deux, peut-être bien. Mais davantage plaisir, tout compte fait. Avec papa, on monte vers le fort, vers Fontenay. Le boulevard stratégique grimpe tout droit dans le ciel gris avec ses arbres sans feuilles et ses gros pavés. Le bon air, c'est par là qu'il est. L'air des terrains vagues autour du fort est purifié par l'altitude, alors que celui du bois de Vincennes, c'est rien que du mauvais air frelaté. En tout cas, c'est comme ça que maman voit les choses. Elle s'y connaît en bon air, maman. Elle est de la campagne. Papa aimerait mieux le bois, il y a les petits vieux qui jouent aux boules. Mais elle me demanderait où on est allé, et papa n'est pas sûr que je saurais lui mentir. Peut-être qu'il n'y tient pas tellement non plus. Papa serre ma main dans sa grosse main épaisse, dure, pleine de crevasses et de chatterton d'électricien autour des doigts. Il a toujours des tas de petites blessures qui l'entourent de chatterton. Ma qu'esparadra, son autre main, en passant, glisse un doigt sous les appuis des fenêtres au rez-de-chaussée. Il vérifie s'il y a la goutte d'eau, le larmier, enfin quoi, la cannelure qui rejette l'appui dégoulinante loin du mur et l'empêche de dessiner à la longue d'horribles moustaches noires et de faire péter le ravalement au gel. Garde-moi ça, la goutte, y est pas ? Cousson, ça c'est les Français qui ont fait ça. On s'arrête devant un chantier. C'est nous qu'on est en train de la faire, cette maison-là, me dit papa. J'enjambe des tas de sable, des briques, des planches hérissées de clous rouillés. Ça sent le ciment frais en train de ressuyer. Odeur inoubliable. Papa ramasse un outil qui traîne, ronchonne contre le bon à rien, tâte si le mortier prend autour du dernier rang de briques, chantonne sa petite chanson sans queue ni tête. Moi, je farfouille par terre, je ramasse des clous pour ma collection de clous, des vis, des rondelles, des pitons. Quand j'en aurai beaucoup, je construirai quelque chose de très beau, avec des roues qui tourneront, des engrenages qui s'engraineront. Ça servira à rien, mais ça fonctionnera très bien, quelque chose dans le genre des petits moulins en bois que font les enfants sur les petits ruisseaux dans mon livre de lecture. Mais en bien plus grand, bien plus compliqué, bien plus beau. En attendant, je cherche avec ardeur, j'entasse les petites ferrailles rouillées dans mes poches. Je suis riche, je suis plein de projets, je suis heureux. Papa en a vite marre de se traîner et de me traîner de flaque en flaque. Vers Fontenay, ça devient zonard. Les maisons sont rabougries, pas finies. Les briques n'ont pas de crépi. La tôle ondulée remplace provisoirement les tuiles. Un provisoire qui dure depuis longtemps. Ça sent le gars qui s'est voulu le pavillon, qui se l'est commencé, qui n'a pas eu le souffle. Des clôtures en montant de lit enferment des bouts de jardin désespérés où des choux de Bruxelles flétrissent debout, au garde à vous, les pieds dans la glaise. Le mâche-fer et les culs de bouteille. Qu'est-ce qu'ils bouffent comme choux de Bruxelles en banlieue ? C'est sinistre, ces machins, avec leurs trois feuilles jaunes au bout de leurs bâtons raides et tous ces petits choux avortés collés le long comme des abcès. C'est triste quand ça pousse, ça pue quand ça cuit. Je suis bien content de ne pas aimer ça.
Quand j'entends s'enrouler les feuilles de l'automne, que le ciel de l'été dans mon cœur se cramponne, je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Quand du fond du Québec les couleurs se bourgeonnent, moi je crois bien que c'est la neige qui s'épleure et frissonne. Puis je me dis que le français est une langue qui résonne. Puis je me dis que le français est une langue qui résonne. Endormi sous la mer qui saigne sur Narbonne, de mes yeux fatigués pleurent des sables de l'or. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Langue d'ocre du nord, les accents s'époumonnent. Dans ma tête versée, mon pays se crayonne. je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Assis près de Calais, dessous les lames bretonnes, je regarde arriver les vagues anglo-saxonnes. Tous mes mots vieux français éclatent et bouillonnent. Tous mes mots vieux français éclatent et bouillonnent. Si plages et forêts s'asphaltent sous carbone, si les ailes collées, les oiseaux abandonnent. Moi qui me crois beau français, je sens que je décore. De mes mots censurés, que Villon me pardonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne.
Papa pousse la porte d'une petite boutique peinte en vert bricolée à la maison, coincée entre deux immeubles étiques sur lesquels la pluie ne cesse jamais. Jamais, j'en suis sûre. Une vilaine pleuviasse morne, stricte boîte à pauvres bien moins marrante que nos trois rats de la rue Sainte-Anne. Oui, mais ils ont le bonheur, dirait maman. À la ville de Parme. Épicerie buvette, produit d'Italie. La chaude, merveilleuse odeur vient me chercher jusque sur le trottoir. M'enveloppe. M'emplit, m'éclate. Je suis au paradis. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, l'odeur, ça compte vachement. Le matin, quand je pars pour l'école, l'épicier de l'épicerie fine de la grande rue, juste en face du débouché de la rue Sainte-Anne, est en train de griller le café. Il fait ça dehors, sur le trottoir, dans une espèce de tonneau en tôle avec tout autour des trous de poêle à marron. Il tourne la manivelle pour que le café grille bien partout pareil. Une grosse vapeur blanche monte et emplit la rue. Ça sent le café qui grille à plein nez. C'est bon, bien meilleur que quand on le verse dans la tasse. Oh là là là, mille fois meilleur. Le café, on ne devrait pas le boire. On devrait se le faire griller sur un petit grilloir et se le respirer bien à fond. Tiens, c'est comme les camels qu'on se cotise pour s'acheter en cachette. Quand tu ouvres le paquet, tu mets vite ton nez dedans, tu renifles. C'est pas croyable ce que ça sent bon. Du miel, de l'encens, des tas de trucs chauds et doux. Ça te donne envie de fumer pour te régaler de la bonne odeur jusqu'au fond des poumons. Bon, t'allumes, bof, mouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça. L'odeur de la boutique italienne, c'est compliqué. Il y a des tas de choses dedans et en même temps, c'est simple parce que c'est tout des odeurs qui vont dans le même sens. L'accord parfait, quoi. Comme quand on chante la nuit de Rameau à l'école à quatre voix et que pour une fois, on n'a pas trop envie de chahuter le prof de chant. Ça arrive. Il y a les olives dans leurs tonneaux. Il y a les poissons salés dans leurs tonneaux aussi. Des petits tonneaux plats où les poissons sont rangés bien serrés, bien en ordre comme les rayons d'une roue. Quelle patience ! Il y a le concentré de tomates dans la grosse boîte en fer. Il y a les champignons secs enfilés sur des fils au plafond. C'est ça qui sent fort, tiens. Il y a les morues sèches, plates comme des chemises en pesée. Il y a les salamis et la saucisse. Il y a la pancetta roulée. Il y a les herbes, les sacs de riz, de lentilles, les grappes de fiasque au ventre de paille. Il y a le jambon de Parme sur la machine à faire les tranches sottilissimes, mais très très subtiles. C'est pas joli. Ça aussi, ça sent fort et bon, le jambon de Parme. Et il y a le parmesan, l'odeur reine. Le parmesan, l'éléphant des fromages. Les roues de 100 kilos, noires, empilées comme des pneus de camion, tellement dures qu'il faut les entamer à la hache, séchant et mûrissant doucement dans le coin, parfumant tout de leur incroyable odeur de culotte de petite fille pas très soignée. J'ai faim soudain. Et justement, papa me propose « une petite cache écroutée ». Oh oui, le monsieur coupe la baguette en sifflet. Très aigu, je suis ravie, c'est tellement meilleur. À la maison, maman veut qu'on coupe le pain bien droit. bien perpendiculaire. De biais, en sifflet, ça fait bistrot, qu'elle dit. C'est pas convenable. Dans mon pain, il glisse des tranches de salamé fines comme du papier de soie. Sautilissime. Maman n'achète jamais de salamé, c'est trop cher. Elle achète du saucisson de cheval. On s'en coupe des tranches épaisses. C'est bon aussi, mais c'est pas magique comme ici. Et qu'est-ce que je lui sers au jeune homme? Papa dit, un petit Turin. Je bois mon dé à coude de vermouth, à petite gorgée, les yeux fermés pour bien sentir le goût. Papa se tape quelques coups de postillon en causant du pays, de ceux qui sont morts et de ceux qui sont cocus. Il rigole comme il sait rigoler. Il s'essuie les yeux, se cale une chique pour affronter la nuit maintenant tombée. On y va, piston? On y va? C'est pas des dimanches formidables, ça?
Cerco di capire quello che non so capire. Fuori vola polline, ho creduto fosse neve. Non mi sento contento, chissà se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Chiedimi se dove sto, sto bene, se sono felice. Chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici. Dov'è, 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 dov'è la gioia, dov'è, 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 dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso, l'orizzonte e l'odio ha reso il bene. Dov'è? Mi chiedo dov'è. Cerco di sentire quello che non so vedere, la mia solitudine sul fondo di un bicchiere d'acqua che mi inviti a bere. Ho sete di stupore, mi puoi accontentare. Chiedimi se sono fuori posto, in questo posto chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda adesso. Dov'è, 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 dov'è la gioia, dov'è, 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 dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso, l'orizzonte e l'odio ha reso il bene. Dov'è, mi chiedo dov'è. E rimango già qui, rimango così e non ci penso più. Ho una clessidra ferma al posto del cuore e un piano alto dove puoi vedere tutto. Rimango così, rimango così e non ci penso più. E allora chiedimi se sono fuori posto, in questo posto chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda adesso. Dov'è, 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 dov'è la gioia, dov'è.
C'était donc un extrait du livre L'Hérital de Cavanagh, un livre de 1978 édité chez Belfond. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres extraits. À très bientôt.